de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leurs mûres saisons les chats, puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Je ne sais pas si vous y avez été sensible autant que moi. Depuis quelque temps, le regard jeté sur les chats est moins unanimement affectueux que naguère. Certes, les 13 millions de Français et de Françaises qui ont choisi des chats comme animaux de compagnie ne leur marchandent pas leur tendresse. Mais voici qu'on entend parler de massacres de chats noirs, par exemple à Marseille tout récemment. Voici surtout qu'on leur reproche d'être de trop gros prédateurs, de tuer par millions les oiseaux et les petits mammifères, au point de provoquer ou au moins d'accentuer un inquiétant affaiblissement de cette faune dans nos pays. À telle enseigne qu'en Suisse, la SPA, la Société Protectrice des Animaux, a réclamé qu'on instaura par la loi la politique du chat unique par foyer, 35 ans, après qu'a été imposée en Chine la règle de l'enfant unique. Cette même SPA est allée jusqu'à suggérer un couvre-feu pour tous les chats domestiques entre 20h et 8h du matin. À franchement parler, ces suggestions n'ont pas été suivies d'effet. Mais elles rappellent une donnée souvent oubliée, à savoir que d'âge en âge, les relations de l'homme et du chat ont connu un destin sinusoïdal, ou si vous préférez, cyclique. Excellentes par moments, mauvaises à d'autres, pour ne pas dire exécrables. Voilà bien qui mérite d'être éclairé. Et pour ce faire, j'ai convié ce matin Éric Baratet, professeur à l'Université de Lyon, qui s'est attaché de longue main à l'histoire des animaux dans leur rapport avec nos semblables, selon une curiosité qui va quelquefois jusqu'à renverser le regard pour se placer, chose ardue, propos stimulant, du point de vue de ces bêtes qu'on a cessé d'appeler sauvages.
Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde, c'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archet qui morde sur mon cœur, parfait instrument, et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme en un ange aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu. Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tiré comme par un aimant, se retourne docilement, et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement.
Éric Baratet, bonjour.
Bonjour.
il y aurait 600 millions de chats de compagnie sur cette planète. En voici un. Très fameux, c'est celui de Baudelaire, le chat de Baudelaire tiré des Fleurs du Mal. Lu ici par Alain Cuny sur France Culture le 20 juin 2001 dans l'émission Métamorphose de François-Xavier Tchimtchak. Voilà rassemblé, n'est-ce pas, l'essentiel de ce que nous allons avoir à évoquer entre mystère, religion, spécificité, odeur, étrangeté.
Et place tout à fait particulière du chat, à la fois proche, à la fois éloigné, ce qui n'est pas du tout le cas du chien, qui est beaucoup plus proche de nous. Le chat, effectivement, vous avez dit, il y a une histoire cyclique. Et bien, ce chat, il a toujours été présent, au moins depuis l'Empire romain, chez nous, dans les fermes, dans les maisons, puisqu'il était là pour manger les rongeurs. Mais avec une relation très très particulière des hommes, à la fois qui pouvait être à la fois très proche, très affective, et puis en même temps très difficile.
Sans désemparer, vous évoquez la relation, la différence entre le chat et le chien. C'est Marcel Mauss, le fameux anthropologue, qui disait « L'homme a domestiqué le chien, mais c'est le chat qui a domestiqué l'homme ».
Oui, parce qu'en plus, il a tout à fait raison dans le sens où le chat a accepté sa domestication. Il a largement contribué à sa domestication, puisqu'on pense que c'est en fait la mise en place de l'agriculture, la mise en place des silos à grains dans les villages sédentarisés qui a attiré les rongeurs. Et pour se défendre des rongeurs, eh bien, on a compris que le chat pouvait être utile. Et le chat était attiré par ces rongeurs autour des villages, s'est installé là. Évidemment, pour lui, c'était un garde-manger tout près. Et il y a eu finalement un accord réciproque entre homme et chat pour s'auto-domestiquer ou se domestiquer mutuellement.
Pendant très longtemps, on a considéré que cette domestication ne pouvait remonter qu'à l'Égypte ancienne. Depuis peu, on va plus loin en arrière.
Oui, alors on a découvert il y a quelques années un squelette de chat remontant à 9000 ans. On l'a découvert à Chypre, enterré à côté d'un homme. Et donc, une forme de domestication, hein, même si... Alors, la domestication du chat n'est pas du tout celle du chien. Le chien a été profondément transformé physiquement par la domestication jusqu'à nos jours, alors que la domestication du chat était moins profonde. Il y a très peu de différences génétiques, par exemple, entre les chats sauvages et nos chats actuels, et il y a très peu aussi de différences morphologiques. La domestication est plus rampante chez le chat.
C'est une lignée unique, semble-t-il.
C'est une lignée unique. Alors le chat est le descendant en fait du chat sauvage africain, du Felis libica.
Qui a donné le Felis catus.
Qui n'a rien à voir avec le chat sauvage européen. Hein, donc c'est... Alors on sait maintenant par la génétique qu'il y a eu deux étapes de domestication. La première étape s'est produite autour de, il y a à peu près 9000 ans, donc 7000 ans avant Jésus-Christ, en Anatolie, dans la Turquie actuelle. Et puis, à partir de là, il y a eu une première diffusion, notamment en direction de la mer Noire, de l'Europe de l'Est. Et puis, il y a eu une deuxième domestication, chronologiquement, en Égypte, à partir à peu près de 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais qui s'est mise en place très progressivement. Et on peut dire que la véritable domestication du chat en Égypte, c'est plutôt le premier millénaire avant Jésus-Christ.
Alors attardons-nous, il le faut évidemment, sur l'Égypte, Éric Baratet, car dans nos manuels enfantins, on nous montrait déjà la présence de ce chat, à la fois dans les caricatures, les dessins, et puis les chats momifiés par centaines.
Au départ, ces chats sont là en Égypte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour des raisons utilitaires. Ils se rassemblent autour des villages, ils sont attirés par les rongeurs, attirés aussi par les serpents. Hein, le Felis libica est un chat aussi qui attaque les serpents, les scorpions, ce qui est évidemment très utile au niveau sanitaire pour les hommes. Et donc, il y a eu cette symbiose qui s'est mise en place, finalement, un peu comme la symbiose entre les rongeurs et les hommes, finalement. Hein. Les rongeurs ont été attirés par les villages et par les silos à grains. Bah, les chats sont venus aussi se mettre en symbiose parce qu'il y avait les rongeurs. Et puis, petit à petit, à force d'observer ces chats, eh bien, on a fait un parallèle en Égypte avec des divinités. Le chat est devenu, le chat mâle est devenu un symbole du dieu soleil qui lutte chaque jour pour le retour de la journée, pour éviter que la nuit l'emporte. Hein, il y a un affrontement entre le dieu du jour et une déesse de la nuit, et le chat donc participe à cet affrontement. Le chat, puisqu'il vint, il attaque les serpents, il tue les serpents, et bien le chat a été associé au dieu du soleil, alors que le serpent était associé à la déesse de la nuit.
Et puis nous savons que la nuit, tous les chats sont gris, donc ils peuvent chasser sans se montrer trop.
Et ils chassent très bien la nuit, c'est leur période favorite. Et puis, la chatte, elle, a été associée à la déesse Bastet, la déesse de la fécondité, la déesse des familles, de la maternité, etc. Et cette association a fait qu'au bout d'un moment, le chat ou la chatte sont devenus des images mêmes de ces divinités, soit de Bastet, soit de Ra. Et c'est comme cela qu'au bout d'un moment, on s'est mis à faire des sacrifices ou des espèces de sacrifices à ces divinités sous la forme de chats que l'on tuait et que l'on momifiait.
Sur la fécondité, on ne s'en étonne pas puisqu'on nous dit que un couple de chats pourrait donner 20 000 chatons en 4 ans avec des générations successives.
Oui, la fécondité est très très importante et ça, elle a été retenue, reconnue très tôt. Alors avec on le verra pour Rome, par exemple, pour la Grèce ou Rome antique, avec du coup un versant négatif qui va être affublé au chat et qui va durer très longtemps.
Alors portons-nous précisément vers la Grèce et vers Rome antique. Les comportements sont assez différents envers le chat, envers ce chat dont nous parlons ce matin.
Oui, alors au départ, le chat égyptien est très peu importé. Les Égyptiens ne veulent pas que les chats soient emmenés par les navigateurs, les marchands, etc. Et puis en fait, la pression est telle que ce sont quand même par le commerce, et notamment du côté des Phéniciens, qu'il va y avoir exportation et arrivée en Europe du chat égyptien.
Mais on voit Hérodote, en son temps, considérer que c'est une donnée spécifiquement égyptienne. Il en rend compte en tant que voyageur, que géographe.
Exactement. Oui. Le chat domestique à cette époque-là est vraiment une spécialité égyptienne, mais qui arrive donc en Grèce autour du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce chat est relativement mal apprécié parce que c'est un mangeur d'oiseaux. Et le chat en Grèce antique et dans la Rome antique ne va pas être très apprécié parce que l'oiseau a un statut absolument privilégié. L'animal de compagnie par excellence en Grèce et à Rome, c'est l'oiseau.
Donc la Grèce, c'est une période médiocre pour les chats, selon cet ensemble de sinusoïdes que j'évoquais en commençant.
Exactement. Et puis, on n'a pas besoin des chats à l'époque, en Grèce et à Rome, parce qu'on a d'autres animaux qui attaquent les rongeurs. On a notamment la bolette ou la fouine. Et donc, on ne voit pas bien l'intérêt de ce chat en plus. Et il faudra attendre à peu près le 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire presque 1000 ans après, pour que les qualités de chasse du chat vis-à-vis des rongeurs soient reconnues et finalement mis sur le même plan que par exemple la bolette, et pour ensuite dépasser la bolette. On va oublier la bolette comme chasseur de rongeurs au profit du chat.
Sauf La Fontaine, mais nous y viendrons tout à l'heure. Alors Rome a une attitude différente à l'égard du chat.
Rome va accentuer le côté négatif dans le sens où cette prolifération du chat va être mise sur le plan d'une sexualité débridée, d'une sexualité débordante, d'une sexualité négative. Et ça va, dès les premiers siècles de l'Empire romain, on va désigner les prostituées sous le terme de catus. Il y a une association entre la sexualité vénale, débordante, etc., et le chat ou la chatte.
Et comme si souvent, dans l'Antiquité, lorsque l'on commence de considérer en mauvaise part l'animal, on l'associe à la femme.
Exactement, là c'est le cas. Et d'ailleurs, la chatte va servir
misogynie
à désigner le sexe féminin.
C'est du temps des Romains, semble-t-il, que date le terme de catus, parce que les Grecs, eux, disaient... Parler d'Ailouros, le remueur de queue. Aujourd'hui encore, on désigne parfois avec un peu d'ironie les amoureux des chats sous le nom d'allurophiles.
Oui, alors ce terme de catus, on ne sait pas trop bien sur quoi il a été construit. On l'appelait aussi félis. Les Égyptiens, alors je ne connais pas l'accent, mais enfin, disaient plutôt miou, hein, M-I-O-U.
Pas miou miou.
Et donc, ce terme de catus, on ne connaît pas bien son origine, mais c'est effectivement le terme qui va s'imposer à la fin de l'Empire romain et durant tout le Moyen Âge.
Donc à ce moment-là se développe toute une thématique hostile aux chats. Je parle de Rome après la Grèce.
Oui, alors cette thématique hostile aux chats, à Rome elle est présente, mais n'est pas, comment dire, inscrite dans la civilisation autant que cela va se faire au Moyen Âge. Dans le sens où le chat n'est pas aussi présent. Il n'est pas très présent dans les fermes, il n'est pas très présent dans les villes. Ce n'est pas l'animal de compagnie privilégié, hein. Il y a d'abord les oiseaux, comme je le disais tout à l'heure, les chiens, les chats viennent bien, bien après. Et en fait, il faut attendre le Moyen-Âge pour qu'on ait une espèce de diffusion numérique du chat, puisque le chat va devenir l'animal qui chasse les rongeurs. Donc il va se répandre un peu de partout. Il ne va pas être réservé aux villes, il va se répandre dans les campagnes. Et on va avoir des chats de partout, y compris dans les fermes. Et des chats qui peuvent rentrer aussi de partout. Ça, c'est tout à fait important. Le chat a la permission de rentrer dans n'importe quelle pièce, jusque dans la chambre, ce qu'un chien, par exemple, n'aura pas le droit de faire. Mais en même temps, parce qu'il faut que ce chat continue à manger les souris, il n'est pas question d'avoir avec lui des relations proches. Et donc, on voit très bien comment, dès le Moyen-Âge et jusqu'au XXe siècle, dans les campagnes, eh bien, le chat fait partie, en fait, dans l'échelle des animaux domestiques. Il est au dernier rang. Il est en dessous de tous les autres. On ne le nomme pas, on ne lui parle pas, on le tient à l'écart, parce qu'il doit faire son travail. Il ne faut surtout pas le nourrir, évidemment. Et on pense que, comme cela, en le mettant à distance, il restera un animal utile, un animal fonctionnel.
Je vois que votre binôme chien-chat s'installe d'origine. J'observe aussi ce que vous dites sur nommer le chat. Le moment où on commence à nommer l'individu chat, comme certaines vaches aussi sont nommées par l'agriculteur, c'est un moment important.
Alors, les nominations de chats, on en trouve quelques-unes durant l'Empire romain. On le sait par les épitaphes dédié à des animaux de compagnie, des chiens, des oiseaux, quelques chats aussi. Mais ça se développe vraiment à partir des 14e, 15e siècles, dans l'aristocratie, dans la grande bourgeoisie, dans la bourgeoisie lettrée. Mais c'est très, très minoritaire. La plupart des chats de compagnie jusqu'au 20e siècle ne sont pas nommés. On dit le chat.
Entre-temps, au Moyen-Âge, survient la coutume, la tentation de considérer d'éventuels pouvoir secret du chat. On commence à l'entourer d'un halo magique. Et on en trouve encore la trace dans les fameux contes du chat perché de Marcel Aimé. Écoutez cet extrait de la patte du chat. Naturellement, c'est vu de façon attendrie, de façon distanciée, mais néanmoins, il demeure quelque chose en profondeur. C'est ici une adaptation de Catherine de la Clergerie, diffusée sur France Culture le 21 septembre 1996. Un texte lu par Catherine Hubaud et Yves Gerbollet.
Alphonse.
Quoi donc, ma petite fille?
Je pense à quelque chose. Demain, si tu voulais, on n'irait pas chez la tante Mélina.
Je ne demande pas mieux, mais tout ce que je peux dire aux parents n'empêchera rien, malheureusement.
Mais justement, tu n'aurais pas besoin des parents. Tu sais ce qu'ils ont dit? Qu'on irait chez la tante Mélina s'il ne pleuvait pas.
Mais alors?
Eh bien, tu n'aurais qu'à passer ta patte derrière ton oreille. Il pleuvrait demain et on n'irait pas chez la tante Mélina.
Tiens, c'est vrai. Je n'y aurais pas pensé. Ma foi, c'est une bonne idée.
Il se mit aussitôt à passer la patte derrière son oreille. Il la passa plus de 50 fois.
Cette nuit, vous pourrez dormir tranquillement. Il pleuvra demain à ne pas mettre un chien dehors.
Pendant le dîner, les parents parlèrent beaucoup de la tante Mélina. Ils avaient déjà préparé le pot de confiture qu'ils lui destinaient. Les petites avaient du mal à garder leur sérieux, et plusieurs fois, en rencontrant le regard de sa sœur, Marinette fit semblant de s'étrangler pour dissimuler qu'elle riait. Quand vint le moment d'aller se coucher, les parents mirent le nez à la fenêtre.
Pour une belle nuit?
C'est une belle nuit.
On n'a peut-être jamais tant vu d'étoiles au ciel.
Demain, il fera bon d'aller sur les routes.
Mais le lendemain, le temps était gris, et de bonne heure la pluie se mit à tomber. Ce n'est rien, disaient les parents, ça ne peut pas durer. Et ils firent mettre aux petites leur robe du dimanche et un ruban rose dans les cheveux. Mais il plut toute la matinée et l'après-midi, jusqu'à la tombée du soir. Il avait bien fallu ôter les robes du dimanche et les rubans roses. Pourtant, les parents restaient de bonne humeur.
Ce n'est que partie remise.
La tante Mélina, vous irez la voir demain.
Le temps commence à s'éclaircir.
En plein mois de mai, ce serait quand même bien étonnant s'il pleuvait 3 jours d'affilée.
Ce soir-là, en faisant sa toilette, le chat passa encore la patte derrière son oreille et le lendemain fut jour de pluie.
Permanence de conviction enracinée très loin en arrière, Éric Baratet.
Oui, qui remonte au Moyen-Âge. Alors on a peu de choses sur la formation de ces croyances au Moyen-Âge. Au niveau chronologique, comment ça s'est développé petit à petit. Mais c'est effectivement là que tout se forme. Et ça vient de cette relation tout à fait particulière dont on parlait tout à l'heure entre le chat et les hommes qui l'accueillent ou qui le laissent rentrer. On veut mettre à distance cet animal. Et évidemment, l'animal lui-même va conformer son comportement à cette mise à distance.
Toujours votre idée que l'influence fonctionne dans les deux sens.
Bien sûr, et maintenant on peut le prouver, hein, puisque l'épigénétique est une science récente, qui est des années 2000-2010.
Qu'est-ce que ça veut dire épigénétique?
Alors l'épigénétique, c'est une science qui montre que le capital génétique ne s'impose pas aux êtres vivants d'une manière automatique, contrairement à ce qu'on croyait dans les années 60, 80, 90. En fait, ce capital génétique est modulé par l'environnement. L'environnement physique, social, culturel, etc. Et donc, il y a une adaptation incessante des êtres vivants à l'environnement qui les entoure, que ce soit les hommes ou que ce soit les chats.
Alors comment se comportent ces chats au temps de la méfiance qui commence de les entourer?
Eh bien, ils se comportent même d'une manière très méfiante, d'une manière très distante. Et il y a très peu d'interactions entre eux. Et en même temps, ce sont des chats qui vont essentiellement vivre entre eux, entre chats, donc avec tout ce qui est, par exemple, miauler la nuit, chasser la nuit, etc. Et tous ces signes que l'on va observer. Mais ce sont des signes qui se mettent en place que dans un environnement particulier, c'est-à-dire avec une relation avec les hommes tout à fait particulière. On parlera tout à l'heure des nouveaux chats actuels, qui sont beaucoup plus proches des chiens. À l'époque, ce n'est pas du tout ça, hein, ce chat distant. Et alors, c'est ce chat mystérieux, finalement, qui fascine, qui va se mettre à fasciner les hommes. D'où cette idée qu'il y a dans ce chat très indépendant, qui fait sa vie, qui se débrouille tout seul, et bien qu'il y a finalement, c'est presque un ambassadeur de la nature, hein. Il est là pour prédire le temps, il est là pour prédire l'avenir.
C'est l'époque où prolifèrent les proverbes, où paraît le chat. J'appelle un chat un chat, et relais un fripon ajoute, comment c'est, boileau. Il y a l'expression « à bon chat, bon rat » naturellement, et puis d'autres, Éric Baratet.
Oui, il ne faut pas réveiller le chat qui dort, parce qu'il peut être dangereux. Et il y a aussi un proverbe qui explique bien, qui résume bien la situation du chat dans la société à l'époque, c'est « il y a toujours une occasion pour battre son chat ». Et on voit bien que cette mise à distance, qui peut être est effectivement très violente.
On répète aussi le proverbe latin, le chat sait bien à qui il lèche la barbe. Autrement dit, un flatteur.
Oui, intéressé. Et derrière, il y a aussi l'idée du chat ingrat, finalement, qui se sert mais qui ne reconnaît pas.
Puis on ne peut pas ne pas faire référence, évidemment, à La Fontaine, pour qui il y a un anthropomorphisme, comme d'habitude, du chat. Le chat, la belette et le petit lapin, Ramina Grobis. Le chat, là, est celui qui tire avantage de la querelle des autres. Souverain. La belette et le petit lapin, il finit par les croquer.
Oui, c'est le chat toujours gagnant, qui n'a pas de lien finalement, qui ne met pas de sentiment dans les liens, et qui gagne toujours du coup. Et parallèlement avec le chien. À la même époque, il y a plein de proverbes qui se mettent en place à propos du chien. Il fait un temps de chien, etc. etc. Et on a ce couple chien-chat qui est déjà là, mais qui ne signifie pas les mêmes choses selon l'espèce.
Et contrairement au chat, le chien, me semble-t-il, ne prédit pas les maladies, la malchance, la mort, avec non. des gestes spécifiques. Il y a ce texte qui s'appelle « Les évangiles des quenouilles » qui est très révélateur. Dites-nous un mot de cet écrit.
Alors, c'est un écrit, justement, où on voit bien tout ce côté de prédiction, de liaison du chat aussi avec la religion, dont on parlera tout à l'heure avec la sorcellerie. C'est un chat, finalement, qui sait les choses, d'où ensuite toutes les histoires du chat beauté, etc. Ce chat sait les choses parce que c'est un chat sauvage. On considère comme sauvage, on considère en lien avec la nature. Un chat qui a des connaissances. Le chien, c'est pas du tout pareil. Le chien est trop domestiqué. Il est du côté de l'homme, et donc lui ne peut pas... Si l'homme ne peut pas sentir, par exemple, le temps qu'il va faire ou l'avenir, le chien ne peut pas mieux le sentir.
Un des signes de cette distance, c'est que on se refuse, c'est un tabou, à manger du chat. J'observe qu'il y a des pays d'Europe actuelle où on ne mange jamais du lapin. Mais nous en consommons. En revanche, le refus de manger du chat est à peu près universel en Occident et c'est assez mystérieux. Et la semaine prochaine, nous parlerons du cannibalisme. C'est une sorte de préface.
Alors, on ne mange pas du chat parce que le chat est un carnivore et qu'on ne mange jamais de carnivore.
Mais le porc mange aussi de la viande.
Pas le porc élevé. On ne lui donne pas de la viande.
Il est omnivore, nous dit-on.
Il est omnivore dans la... En nature, mais omnivore en nature, ça ne veut pas dire grand-chose parce que en fait, le porc va manger en fonction de ce qu'on va lui donner dans son environnement.
Donc la frontière est entre ceux qui mangent de la viande parmi les animaux et les autres.
Bien sûr, dans la Bible, il est bien dit de ne pas manger de charognard et pas manger de carnivore. Ça, c'est un vieil interdit que l'on trouve donc pour le chat ou que l'on trouve pour le chien parce que le chien est un charognard.
Pourtant, on a mangé du chat à divers moments.
Mais on en a mangé comme on a mangé du chien.
Par exemple, alors, à Belfort, en Franche-Comté, il y a une grande tradition qui pousse à manger du chat, paraît-il.
Oui, et il y a eu du trafic de chat encore, de viande de chat très récemment en Suisse, il y a une vingtaine d'années. Donc ça, c'est quelque chose de très souterrain qui franchit toutes les époques. Mais c'est resté quand même extrêmement marginal à cause de cet interdit. Mais alors cet interdit, il se brise aussi, par exemple, en temps de siège ou en temps de famine, où là, évidemment, le chat
comme le rat
sont très vite pourchassés, mangés. Oui, bien sûr. Mais en temps normaux, il y a là un interdit à propos du chat, du chien, du cheval aussi. Ce sont des interdits qui sont mis en place finalement à partir de l'époque romaine.
Nos ancêtres... N'en faites pas trop état, Éric Baratin, ont probablement, à Paris, s'ils étaient parisiens, au moment de la Commune, mangé du chat.
Oui, ah oui, ça c'est tout à fait reconnu, bien
comme
sûr.
Comme vos chers éléphants, dont nous avons parlé dans une autre émission.
Oui, du chat, du chien, la Commune de Paris est l'un des derniers moments, pendant la Première Guerre mondiale aussi, il y a eu sans doute du trafic de chats aussi.
Commerce-t-on la fourrure du chat comme d'autres animaux?
Oui, en partie, bien sûr, pour des usages locaux. La peau de chat est tout à fait recherchée. On ne mange pas forcément le chat, mais on le pourchasse très facilement. Il faut bien penser que dans les villes, l'énorme population de chats est une population de chats errants. Ce ne sont pas du tout des chats domestiques. Il y a très très peu de chats domestiques au Moyen-Âge, dans le sens où l'on entend, nous, le chat qui reste dans l'appartement, qui est lié à une famille ou à une personne. La plupart des chats, comme des chiens d'ailleurs, dans les villes du Moyen-Âge et jusqu'au début du XXe siècle.
On en retrouve encore aujourd'hui, d'ailleurs, ils se sont développés.
Et les chats errants se sont développés. Ils existent encore alors que les chiens errants ont disparu.
Alors tout ça se rattache naturellement à une idée de la proximité possible entre le chat et le diable. Il y a un côté diabolique chez le chat. À ce propos, je vous offre une chanson de la grande Fréhel, 1935. Une chanson qui s'appelle « La peur » sur des paroles de Georges Zwingel et une musique de René Pessanti. Vous allez très vite comprendre pourquoi je l'ai choisi.
Monsieur le juge, que l'on me juge sans toute sévérité. Car sur mon âme, ce qui fit le drame, c'est la fatalité. Je suis un vaurien, oui, je le sais bien. mais tout de même jamais je n'aurais fait ce qui mène ici sans ce chat maudit. Un chat qui miaule, je vous jure que ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance tel une démence dans le grand silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est presque un symbole de la mort qui frôle la peau. Comme un étau qui vous prendrait le cœur, on a peur. Après l'étude des habitudes du Richard de Neuilly, par la fenêtre, v'là que je pénètre juste devant son lit. Dans le halo de mon blanc falot, j'aperçois le magot. Sous le traversin, j'avance la main, quand sur le chemin, ce chat qui miaule. Je vous jure que ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance tel une démence dans le grand silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est comme un symbole de la mort qui frôle la peau. Comme un étau qui vous prendrait le cœur, j'ai eu peur. Le cri ne cesse, le vieux se dresse comme dans un cauchemar. Sa gorge ronfle, ses veines se gonflent, il me fixe hagard. Son regard fouille mes idées qui grouillent dans ma cervelle en feu. Et tout à coup, fermant les yeux, j'ai serré son cou. On cabriole, notre lutte est folle, et ce chat qui miaule plus fort. Son cri s'élance, trouant le silence, crispant ma démence de mort. Dans ma caboche, sa clameur ricoche, et mes doigts s'accrochent têtus. Quand le chat s'est tu, j'étais devenu soudain assassin. Monsieur le juge, que l'on me juge sans trop de sévérité. Car sur mon âme, ce qui fit le drame, c'est la fatalité.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Le diable, la fatalité, Éric Baratet.
Alors là, c'est un grand, une grande image, effectivement. Alors, autant on ne sait pas très bien comment se sont formés et à quelle date se sont formés les proverbes, autant sur le lien entre les chats et la sorcellerie, le diable, le démon, etc. Alors là, on connaît bien les choses. Ça se forme autour du 12e, 13e siècle. À l'époque de la montée des hérésies locales, notamment d'hérésie cathare.
Alors, certains ont dit que le mot cathare viendrait de mot catus. D'ailleurs, je vois que chez le chroniqueur Alain de Lille, on peut lire que les cathares auraient baisé le derrière des chats parce que ceux-ci auraient incarné Lucifer pour eux.
En fait, ce ne sont pas les cathares qui se nomment cathares. Ce sont les catholiques qui vont nommer les cathares, cathares. Et ils vont le faire, effectivement, ils vont faire très vite un lien entre cathares et catus, parce qu'on va les accuser de ces cathares d'avoir un pacte avec le diable, puisque ce sont des hérétiques, et ce diable apparaissant très souvent soit sous la forme d'un bouc, soit sous la forme d'un chat. Un chat noir, évidemment. Hein. Et ce chat, évidemment, comme le dit Alain de Lille, qui peut demander à se faire baiser au sabbat, etc. Et là, l'association va se mettre en place d'une manière très très forte. Et la deuxième association, c'est avec les sorcières, hein, puisqu'il y a une vague de, non pas de sorcellerie, mais une vague de chasse aux sorcières qui se met en place à partir des 14e, 15e siècle, qui va durer jusqu'au 17e siècle.
L'expression « donner sa langue au chat » viendrait de là, d'ailleurs.
Et exactement. Et cette chasse aux sorcières va faire qu'on va mettre un lien entre la sorcière et son chat. Hein, parce que là aussi, on va penser que la sorcière va au sabbat, monter sur son chat ou sous la forme d'un chat, ou alors que lorsqu'elle fabrique des potions Eh bien, elle va le fabriquer à base de produits de chat ou avec en utilisant la peau de chat, par exemple, pour frotter quelqu'un ou frotter un objet, etc. Et là, c'est une alliance très très forte.
Période très sombre pour le chat, donc.
Période très sombre pour le chat. On le voit très bien dans les tableaux, hein, dans la peinture des 13e, 15e siècle, cette présence très très forte du chat diabolique, qui est souvent là dans les scènes religieuses et notamment dans les scènes de la vie du Christ où il est là tapis et il annonce évidemment le drame. Cette alliance entre le diable et le chat va se traduire aussi par de grands massacres de chats, notamment à la Saint-Jean, par exemple, où on fait brûler des chats.
On les jette dans la flamme.
On les jette dans la flamme. C'est un peu des rites d'expiation. On fait payer aux chats cette alliance avec le démon. Et à l'inverse, tout à l'heure on parlait des proverbes, on a trouvé aussi dans des fouilles archéologiques, dans des maisons, dans des fondations de maisons, on a trouvé des squelettes de chats que l'on enfermait vivants dans les murs, dans les fondations, pour qu'ils se soient un peu des espèces de porte-bonheur pour la maison, dans le sens où, comme cela, on pensait que ça allait éloigner les rongeurs.
Bonheur ou malheur ?
Ben, malheur pour le chat, bonheur pour la maison. Mais voyez que l'utilisation du chat est extrêmement complexe et très différente selon la lecture qu'on en avait.
Donc si nous continuons cette réflexion sur les relations de l'homme et du chat à travers les âges, Éric Baratet, il faut en venir à une période plus heureuse. Pour eux, je veux dire la Renaissance. On voit par exemple chez Montaigne commencer d'apparaître une sympathie pour le chat. Et on dit même que sur ses manuscrits, il y aurait des grandes parties blanches parce que Montaigne aurait écrit autour pour ne pas déranger le chat posé sur ses manuscrits. Et puis il y a Joachim du Bellay qui avait sa fameuse chatte Bello pour laquelle il a composé une épitaphe célèbre en vers. La voici, lue par Jean-Pierre Lituac sur France Culture le 2 septembre 1960.
Maintenant le vivre me fâche, et afin, Magny, que tu saches pourquoi je suis tant éperdu, ce n'est pas pour avoir perdu mes anneaux, mon argent, ma bourse. Et pourquoi est-ce donc ? Pour ce que j'ai perdu depuis 3 jours, mon bien, mes plaisirs, mes amours. Et quoi, ô souvenance grève, à peu que le cœur ne me crève quand j'en parle ou quand j'en écris. C'est Bello, mon petit chagrin, Bello qui fut par aventure le plus bel œuvre que nature fait donc en matière de chat. C'était Bello la mort au rat, Bello dont la beauté fut telle qu'elle est digne d'être immortelle.
Ce n'est pas seulement en Occident d'ailleurs que cette affection se manifeste, dans le monde de l'islam aussi, puisqu'on dit que c'était antérieur. On dit que Mahomet aurait coupé une manche de sa djellaba pour ne pas troubler le sommeil de sa chatte qu'il aimait beaucoup.
Oui, le chat est relativement bien vu dans le Coran.
Mieux traité que...
Alors que le chien, au contraire, est très mal vu. Alors que la Bible, elle, ne parle pas du tout du chat. Il n'y a pas d'alliance, alors que le chien est cité dans la Bible, pas très bien cité, mais le chat n'est absolument pas présent.
Cette résurgence de l'affection pour le chat se manifeste plus nettement encore au XVIIe et au XVIIIe siècle. On dit que Richelieu s'entourait de petits chatons dont il se séparait quand ils avaient 3 mois.
Oui, alors c'est un phénomène qu'on voit apparaître autour des XIVe, XVe siècle, dans les cours aristocratiques ou dans les monastères, chez les moniales notamment. Alors le point très important, c'est que cette revalorisation ne se fait pas en revalorisant les chats domestiques européens. Elle se fait en allant chercher des chats exotiques à l'étranger, des chats inconnus en Europe. Évidemment, il y a un moyen là de distinction de la part de l'aristocratie qui montre évidemment qu'elle a des chats qui n'ont rien à voir avec les chats de gouttière. Et j'ai fait le lapsus avec le chien, mais à la même époque, c'est le même processus avec les chiens. On va chercher par exemple des chiens lévriers hors d'Europe pour en faire des chiens de chasse ou des chiens de compagnie. Et comme par hasard, on adopte notamment des chats blancs. L'arrivée du chat blanc va permettre de revaloriser l'image de ce chat qu'on ne peut plus, au moins pour le chat aristocratique, associer avec le diable. Et l'épitaphe du Bellay est un des grands moments de cette revalorisation qui va durer jusqu'au XVIIIe siècle. Autre étape, c'est le livre de Moncrif qui s'appelle « Les chats ».
Paradis, quel beau prénom, Paradis de Moncrif. 1727.
1727 est un très beau livre et un livre où il explique bien que le chat est un animal très mal considéré, encore à son époque, qu'il faut le revaloriser, mais on voit très bien comment Moncrief revalorise le chat. Il revalorise le chat avec d'autres chats. Et les mêmes qui aiment bien leur chat de compagnie, le Richelieu, Dubelet, Moncrief, sont prêts à donner un coup de fusil au chat de gouttière.
D'ailleurs, Moncrief s'appuie sur l'affection des Mahométans, comme on dit à l'époque, pour leur chat, puisqu'il écrit ceci. Je rappelle que nous sommes en 1727. La charité des Mahométans s'étend même sur les animaux. On aura peine à croire qu'il y ait des fondations établies par des testaments en bonne forme pour nourrir un certain nombre de chiens et de chats pendant certains jours de la semaine. Cependant, c'est un fait constant et l'on paye dans Constantinople des gens pour exécuter l'intention des testateurs. Il faut aussi observer que le paradis de Moncrief a été un peu moqué par un certain nombre de philosophes qui l'ont appelé historiogriffe.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que le portrait que dresse Moncrief notamment, on voit très bien que le portrait du beau chat, du vrai chat finalement, c'est un chat élégant, un chat raffiné, un chat distingué. Physiquement, c'est un chat qui se promène avec ruban, qui est poudré, etc. En fait, ce chat-là est un portrait de l'aristocrate de l'époque. On projette sur ces chats un portrait de l'aristocratie. Et on voit bien le lien très fort. Et sur les chiens de compagnie de la même époque, le petit bichon que l'on parfume, le petit caniche que l'on parfume, c'est aussi une projection de l'aristocrate distingué, bien éduqué, etc.
Du côté du peuple, il y a souvent au contraire des réactions très, très hostiles aux chats des riches, des bourgeois ou des aristocrates, en suivant d'ailleurs Buffon qui disait qu'il n'aimait pas les chats, qu'il y avait une malice innée, un caractère faux et un naturel pervers. À propos de cette hostilité, il y a le fameux épisode du massacre des chats de la rue Saint-Séverin. Rappelez-nous ce dont il s'est agi, Éric Baratet. C'est assez révélateur, en effet, ce massacre des chats de la rue Saint-Séverin.
Alors, ce sont des compagnons imprimeurs, des ouvriers imprimeurs, qui ne vont pas supporter la présence des chats autour, et notamment la présence de deux chats favoris du patron et de la patronne de l'imprimerie, et qui vont projeter sur ces chats-là toutes les tensions qu'ils ont avec leur maître. Et ça va se transformer en un massacre des deux chats, mais aussi un massacre des chats alentour. Et en fait, on voit bien que les deux chats des patrons sont en fait des chats de gouttière plus domestiqués que les autres. Mais ça reste des chats mal vus, des chats noirs, des chats de gouttière. Et du côté donc populaire, l'hostilité vis-à-vis des chats reste en place. Elle reste en place facilement jusqu'au 19e, même première moitié du 20e siècle.
Donc nouvelle période très difficile, en tout cas du côté des classes populaires.
Du côté des classes populaires, disons que là-dessus, il n'y a pas de différence avec le Moyen-Âge. On est sur une longue tendance, une longue période. C'est du côté des classes aristocratiques ou bourgeoises que la transformation s'effectue.
En revanche, nous citions deux fois Baudelaire au début de cette émission. En revanche, le chat va retrouver avec les romantiques une situation spécifique et provoquer beaucoup d'attention des poètes.
Oui, alors c'est très particulier parce que ces romantiques vont à la fois reprendre la revalorisation du chat né dans l'aristocratie au XVIe, XVIIIe siècle. Donc là-dessus, ils sont dans le sillage des élites sociales. Mais ils ne vont pas donner du tout la même projection sur ces chats. Autant du côté des aristocrates, c'était le chat raffiné, distingué, autant les romantiques vont renouer avec le chat de la sorcellerie, le chat des sorcières. Et évidemment, c'est dans le contexte incarné par Michelet, qui publie en 1864 « La sorcière ». Et c'est dans ce contexte-là qu'on va retrouver cette alliance qu'on avait oubliée parmi les élites cultivées, on avait oublié cette alliance entre le chat et la sorcellerie, le chat démoniaque. Et c'est là-dessus que les romantiques vont insister. Et ils vont faire du chat un portrait très particulier qui n'a plus rien à voir avec celui des aristocrates. C'est le chat ingrat, le chat en marge de la société, le chat indépendant. Et en fait, ce portrait qu'ils dressent, on voit bien que c'est le portrait d'eux-mêmes, c'est le portrait des artistes romantiques qui eux-mêmes se posent comme des marginaux dans la société.
Les origines du romantisme, Chateaubriand écrit déjà, c'est une lettre au comte de Marcellus, « J'aime dans le chat ce caractère indépendant, nous y voilà, ce caractère indépendant et presque ingrat qui le fait ne s'attacher à personne. Le chat vit seul, il n'a nul besoin de société, il n'obéit que quand il veut. Il fait l'endormi pour mieux voir et griffe tout ce qu'il peut griffer. Buffon a maltraité le chat. Je travaille à sa réhabilitation, c'est Chateaubriand qui parle, et j'espère en faire un animal honnête à la mode du temps. À la mode du temps, on ne peut pas mieux dire.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces romantiques-là adoptent les chats des rues, qui étaient mal vus au Moyen-Âge, pour justement leur indépendance, qui apparaissait comme des chats trop mystérieux, bizarres, c'est ce qui va plaire aux romantiques. Et les romantiques n'adoptent pas le même chat que les aristocrates de l'Ancien Régime. Les aristocrates d'Ancien Régime ont adopté des chats persans, des chats syriens, etc., des chats exotiques. Et on sait maintenant, par l'éthologie, par la science du comportement des animaux, que ces races de chats donnent des chats beaucoup plus proches des hommes, avec lesquels les interactions peuvent être plus fortes. Alors que les chats des romantiques, ce sont des chats de gouttière. C'est à nouveau le chat noir. Et ce chat de gouttière, ce chat des rues, bah, c'est un chat beaucoup plus distant.
Et le chat de la mère Michel, 1832, il est un chat de gouttière, distant, présent. C'est un texte d'Émile de la Bédelière.
Ah bah c'est le chat présent dans le sens où il est partout, mais distant dans les relations. Et donc, c'est le chat, finalement, à qui l'on peut faire ce qu'on veut. On parlait tout à l'heure du fait qu'on pouvait faire brûler des chats à la Saint-Jean, etc.
Là, c'est Lustucru.
Là, c'est, voilà.
Le père Lustucru qui...
On s'amuse à le...
Traite mal.
À maltraiter, voire peut-être même à manger le chat.
Cela reflète assez bien le sort qui est souvent réservé encore aux chats à l'époque. Donc ambivalence, comme toujours.
Toujours ambivalence, et là, on voit bien que ambivalence selon les groupes sociaux. Et ambivalence aussi selon le chat, parce que si on a un chat persan ou un chat de gouttière, ce chat-là n'aura pas les mêmes interactions avec vous.
Si l'on en vient maintenant au XXe siècle, il y a une personnalité dans la littérature française qui a fait au chat une situation particulièrement honorée, particulièrement célébré, c'est naturellement Colette. Il fallait que nous l'entendions avec son accent bourguignon parler d'une de ses chattes. Il s'agit ici de la chatte Péronnelle, 1948.
Celle-là s'appelait Péronnelle d'abord, mais après ça, à cause de la parole de chatte qu'elle disait si volontiers, elle s'est appelée, je ne sais pas si on l'entendra dans le micro, elle s'appelait Prrr. C'est une magnifique créature. Je l'avais ramassée là-bas, à la campagne, en Franche-Comté. Je l'avais ramassée proprement mourante de faim. Et puis, je l'avais rendue très bien nourrie et très belle. Et je n'avais pas eu besoin de la forcer à être très intelligente. Elle l'était de naissance. Et un hiver, j'ai été forcée de la confier à ma mère. Parce que moi-même, je me livrais à ma belle industrie qui consistait à jouer la pantomime et même quelquefois la comédie, ma foi, dans les théâtres de province. Alors j'ai dû laisser ma chatte auprès de ma mère. Elle aimait beaucoup ma mère aimait beaucoup la chatte. Et puis une fois, en cours de tournée, je suis revenue chez ma mère et j'ai retrouvé la chatte que je n'avais pas vue depuis près d'un an. Alors la chatte m'a reconnue et elle m'a malheureusement réadoptée avec passion, avec fidélité. Elle avait à ce moment-là un petit chat de 8 à 9 jours qui n'avait pas encore les yeux ouverts. Et puis il a fallu que je reprenne ma tournée et je suis repartie le lendemain. Alors au bout de quelque temps, j'ai reçu une lettre de ma mère qui me disait qu'elle était bien désolée que la chatte, quand j'avais été partie, elle était partie malgré une grande couche de neige, elle était partie me chercher partout où elle pouvait, dans le village et dans les jardins, et sans doute très loin, elle était partie me rechercher. Et puis elle ne m'avait pas trouvée. Et elle a laissé mourir son petit, ce qui est rare chez une chatte, surtout chez elle. Elle a laissé mourir son petit, et comme elle ne m'a pas trouvée, elle est rentrée visiblement désespérée. mais elle a bien consenti tout de même à vivre. Mais elle m'avait préféré à son petit chat, et c'est une chose que, heureusement, je n'ai pas vue deux fois dans mon existence, ni dans celle de mes chattes.
La fidélité du chat s'entrelace avec son indépendance, avec sa distance. La maison de Franche-Comté, à quoi Colette fait allusion, c'est sa maison de Montboucon, qui a été à l'origine de son livre « La retraite sentimentale ».
Et on voit bien avec ce témoignage l'alliance qui va se mettre en place dans la première moitié du XXe siècle entre les intellectuels au sens large, écrivains, artistes, etc., et le chat. Cette idée d'indépendance, de présence, et on a plein d'intellectuels, Cocteau avec son chat, Colette, Fujita qui peint son chat, etc.
Léoto,
évidemment.
Le fameux chat Bébert de Louis-Ferdinand Céline.
Bien sûr.
Qu'il a accompagné pendant une dizaine d'années à Sigmaringen, au Danemark, quasiment en prison, et finalement dans sa maison de Meudon.
Et dont Frédéric Vitou a fait une petite biographie qui est intéressante, hein, la vie du chat Bébert, et que je conseille aux lecteurs. Et cette présence, cette liaison entre intellectuel et chat, explique le grand succès du chat dans la seconde moitié du XXe siècle, cette fois-ci auprès des classes moyennes, puisqu'il va y avoir un phénomène de vulgarisation, de diffusion sociale du modèle du chat domestique, du chat de compagnie. Et dans les classes moyennes, et notamment dans les professions libérales, les professions de fonctionnaires, etc. Et on a des sondages des années 80-90 qui montrent bien que cette population adopte des chats parce qu'elle a une image du chat indépendant, autonome, et parce qu'elle-même se veut indépendante, autonome par rapport au pouvoir économique, au pouvoir politique, etc. Et elle a tendance à projeter sur les propriétaires de chiens une image inverse. Le chien tout fidèle du système, le maître aussi est quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime bien le système. Et ça va faire beaucoup pour le succès du chat entre les années 50 et les années 90.
Dans ces familles, on lit beaucoup Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, où il y a ce fameux chat du Cheshire, qui incarne tout à fait cette indépendance distante, un peu ironique. Et d'ailleurs, le chat est très présent dans la bande dessinée contemporaine pour notre bonheur.
Bien sûr, il y a énormément de figures de chats dès l'entre-deux-guerres. Et on en trouve chez Rabier, par exemple, chez Benjamin Rabier. Et puis, de nos jours, il y a des figures tout à fait exemplaires, du chat de Luc, le chat du rabbin, de Johann Sfer, Garfield, Jim Davis, etc., qui sont des figures de chats qui ont vraiment imposé ce chat indépendant, compagnon, joueur. Mais le point important, c'est que du coup, on croit que le chat est éternellement le même, qu'il y a une espèce de portrait intemporel du chat, alors qu'en fait, le chat évolue lui-même de la même manière que nous évoluons dans nos comportements et notre vision du chat, lui-même évolue dans ses comportements.
Comme les chats de ciné aussi.
Exactement, et c'est ce qui explique, je dirais, une nouvelle époque de chat, récemment, qui est venu de Nouvelle-Zélande, d'Australie, qui est passé par les États-Unis, qui arrive maintenant en Europe, c'est ce que j'appelle le chat-chien. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, le chat a dépassé le chien numériquement. Il y a plus de chats en France que de chiens, par exemple.
Combien vous les avez comptés ?
Eh bien, on est à moins de 10 millions maintenant, on est autour de 7-8 millions de chiens. Et on est autour de 12 millions, 13 millions de chats. Donc la différence est très, très importante.
Et ça s'est renversé par rapport au 19e siècle.
Ça s'est renversé entre fin 20e et début 21e siècle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que là, on a une troisième vulgarisation sociale. Les propriétaires de chats, maintenant, n'ont pas les mêmes exigences que pouvait avoir un aristocrate du XVIIIe siècle, un romantique au XIXe siècle, une profession libérale dans les années 1960. Et les exigences qu'ils ont, finalement, sont très proches de celles qu'on avait pour les chiens de compagnie. C'est-à-dire qu'on veut un chat interactif, on veut un chat qui joue. Et d'ailleurs, aux États-Unis, toutes les enquêtes montrent maintenant que dans les refuges pour faire adopter un chat, il faut mettre un jouet dans la cage du chat, même si le chat n'est pas bien joueur. Comme ça, ça va attirer les futurs propriétaires. Et cette demande de chat beaucoup plus interactif, de ce que j'appelle le chat-chien, finalement, on veut un chat très proche du chien, eh bien, est en train de transformer actuellement la population de chats. Tout simplement parce que les éleveurs vont se mettre à sélectionner des chats adaptés. Dans les refuges, eh bien, les chats interactifs sont beaucoup plus adoptés que les autres qui vont finir euthanasiés. Et donc, on est petit à petit en train de transformer nos chats et en faire avec un nouveau type de comportement.
Il est assez remarquable que cette forme d'eugénisme, en somme, animalier, apparaît, se développe à la fin du 19e siècle avec les expositions de toutes sortes, au moment même où l'eugénisme n'est pas si mal vu dans beaucoup de pays d'Europe.
Oui, alors,
pour les hommes, je veux dire.
À l'époque, pour les chats, ce qu'on crée à partir de la fin du 19e siècle, ce sont les races modernes. Il y a très peu de races de chats, il y en a une trentaine. Et en fait, elles sont très récentes. On a commencé à les créer à partir de la fin du 19e siècle avec les expositions félines qui commencent dans les années 1880-1890, les premières en Angleterre, puis ensuite en France.
Avec le journaliste célèbre à l'époque, Fernand Xau, le Nantais.
Oui, et puis il y a création du Cat Club de France, par exemple, comme il y a un Cat Club en Grande-Bretagne.
Qui existe toujours.
Qui existe toujours et qui vont pousser à la création de races, les races que l'on connaît actuellement.
Eh bien, nous voilà dans notre présent. Je m'arrête là, Éric Baratet. Pour l'avenir, nous nous retrouvons plus tard.
Voilà.
Votre ouvrage majeur, qui reflète l'ensemble de vos préoccupations, ce dialogue, je le disais, entre les animaux et nous-mêmes, dans les deux sens, s'appelle « Biographie animale » et est paru au Seuil en 2017. Et puis, en collaboration avec Claude Beata et Vinciane Després, « Chien, chat, point de suspension, pourquoi tant d'amour ?» paru chez Belin en 2015. Hommage aussi à Laurence Bobis, qui a publié une précieuse histoire du chat de l'Antiquité à nos jours chez Fayard en 2000, réédité récemment dans la collection Point. Hommage à Damien Baldin pour son histoire des animaux domestiques 19e-21e siècle, paru au Seuil en 2014. Hommage à la revue Historia qui a proposé un très utile dossier « Comment le chat a conquis le monde » dans son numéro de décembre 2017. Et puis en dernière archive, c'est un cadeau. Cet extrait d'un entretien d'un artiste belge, Marcel Brouders, avec un chat qui est censé jouer le rôle d'un critique d'art en 1970.
Êtes-vous certain que ce n'est pas un nouvel académisme ? Et mais s'il s'agit d'audace, c'est tout de même une audace contestable. Il s'agit tout de même de marcher. Ben, il va falloir les vendre, ces tableaux. Que pensez-vous? Parce que, en ce moment, beaucoup d'artistes se posent la question.
Eh bien voilà, vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez naturellement écouter, réécouter et podcaster cette émission pour la conserver précieusement. Samedi prochain, je voulais annoncer chemin faisant, nous parlerons du cannibalisme. Sous le titre suivant, « Manger son prochain, deux points, jamais, parfois, toujours, point de suspension ». Et je recevrai Jacques-Olivier Boudon, qui, à propos du radeau de la Méduse auquel il a consacré un livre, n'a pas manqué de se préoccuper de cette question de l'anthropophagie. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Emmanuel Laurentin dans la Fabrique de l'Histoire, qui, loin de l'anthropophagie, consacrera ses émissions au thermalisme, aux villes d'eau. Eh bien, sur fond du fameux duo Bouffon des chats, d'après Rossini, au 19e siècle, interprété ici par Félicité Lott et Anne Murray, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, et avec Jeanne Guéroux aussi, réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son Julien Calvas, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Annie Lozana et Linda Simon. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent, comme chaque samedi, pour son émission Affaires étrangères. Yeah.